RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Oh, il y a encore un petit peu de brume, mais bon, ça va se lever. J'aperçois un peu le soleil. Ah non, c'est la lampe qui reflète dans la glace, dans le carreau. Alors, il y a deux lampes. D'un coup, je vois deux soleils. Oh, c'est incroyable. Eh bien alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par Jean Boussu. Voilà. J'aime bien commencer par lui. D'abord parce que c'était un ami que j'aimais beaucoup, et puis je lui dois le respect. Voilà. Respect. Alors, ça s'appelle Jean, code barre, 119-03-48. Alors que je vous explique. Vous savez, quand on va à l'hôpital, on nous met un bracelet au poignet avec un code barre, le nom, la date. Là, c'était pas la date de naissance, là, c'était le 9-8-2007. C'est l'entrée, quand il est rentré à l'hôpital. Voilà. Hein. Et lui, il trouvait ça bizarre. Je croyais que c'était la première fois qu'on lui avait foutu un code barre sur lui. Bon, je lui ai dit, mais t'inquiète pas, c'est pas tatoué, tu pourras l'enlever. Hein. Allez, voilà, 9 août 2007, urgence. Mais non, oui, ce sera un oui massif et ferme. Jean accepte enfin le code barre comme la barquette de merguez à Larisa et la paire de chaussettes Made in China. Code barre, code barre, code barre. Enfin, la traçabilité du bar à la soucoupe de pistache. Jean Boussu, le nouveau produit en réparation, qui parcourt la chaîne identifiée à chaque tour de boulon. Le poète du Coderre estampillé comme un canard gras. Pas ceux de chez Loulou Bordas, non, il est à la retraite. Pas comme Jeannot. Alors quand je vous dis Loulou Bordas, c'est parce qu'il travaillait pour lui. Hein. Et c'était rue de la Sagesse, voilà. Qui comptait ses trimestres devant le diable vert au bar du Coderre. L'hosto, le chariot, la perf, l'infirmière, le thermomètre, l'éther, l'anémie et la poche de sang permise par Émilie. Émilie, belle comme un cachet rose, enrobée juste au-dessous du raisonnable, l'urgence pour Jeannot. Enfin l'urgence qui dure depuis déjà 20 ans. Mais que fait la police? Rien. C'est moi l'ambulancier. La hernie qui trépigne sur sa grosse bourse provisoire. Le chien qui hurle au loin, sur l'autre versant, lui un peu plus. La salle d'attente où on n'attend presque plus rien. Sauf peut-être d'en prendre soin. Les singes et leur misère, la misère qui se singe. Les enfants pleins de bleu, les parents pleins de vin. Toute la richesse d'une société de décroissance au beurre noir. Les mêmes blouses blanches, les mêmes galettes plates sur la tête, les mêmes masques anti-carnaval, virus du mardi des troncs gras. Les mêmes gants qui se taillent selon la grosseur du pouce. Pouce, je ne joue plus. Le sourire de Jeannot absent, inquiet, déjà ailleurs. L'hosto, l'Anne-Marie, l'hosto, et encore l'Anne-Marie. Puis retour à la case épargne, le 103, c'est où il habitait, en face de la sécu. L'hosto 45 est déjà un sacré bail, pour découvrir son code barre entre les oreilles. Mieux qu'entre les orteils, c'est le non-retour, sinon... qui me disait le croque-mort qui en avait marre de mordre l'orteil de chaque candidat aux grandes vacances. Ben oui, vous savez que les croque-morts, leur nom vient parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'appareil pour voir si vous étiez mort. Alors, ils croquaient l'orteil, et si le mort, il faisait « aïe », c'est qu'il était encore vivant, vous voyez. Et s'il disait rien, hop, c'est bon, on pouvait le foutre dans le cercueil, voilà. Alors, pour le vivant, qui n'est pas sensible, qui se fait mordre l'orteil et que ça lui fait pas mal, ben, tant pis, il y passait quand même. Hein. Eh oui. C'est... Allez, Jean Boussu, Scott Barre. Mais réactivé. Jean Bagué comme le pigeon sédentaire des plumets. Jeannot immatriculé comme un vélo à faible rayon d'action. Comme son ombre, l'étiquette l'accompagne jusqu'au pied de son lit et pas loin de son nez. Enfin, Jean réparé range son code barre et le troc pour une carte qui lui sera vitale pour son avenir. Jean assuré, rassuré, opéré, bercé, recousu, remboursé, aseptisé, logé. Mais toujours le seul et le même poète du Coderre. Oui, parce que figurez-vous que quand on l'a emmené à l'hosto, là, hein, enfin pour sa hernie, il n'avait pas de sécurité sociale. Incroyable. C'était l'anti... Comment je pourrais dire l'anti... Enfin, le gars qui cherchait à tout prix à se faire payer ceci ou cela. C'était l'antisocial, quelque part. Pas de sécurité sociale, il n'avait toujours pas demandé sa retraite. Il vivait de la vente de ses petits fascicules, de les courses qu'il faisait pour au Bordas, voilà. Et c'est moi qui ai découvert tout ça pendant qu'il était à l'Osso. Et c'est moi qui ai lui faire avoir sa retraite, c'est moi qui lui ai fait avoir sa sécurité sociale, c'est moi qui l'ai changé de maison parce que c'était insalubre. Hein. Et c'est pour ça qu'il s'est trouvé rue Siegfried. Voilà. Hein. Alors une anecdote, je ne sais pas si je voulais raconter. Ben justement, c'était pour sa hernie. L'infirmière m'appelle, parce que là, généralement, il passait que par moi, lui. Et elle me dit, Monsieur Millier, votre copain, là, Jean Boussu, il ne veut pas se faire raser. Je dis, quoi ? Il n'est pas bien, lui. Je dis, passez-le, moi. Alors, il me passe, elle dit, ouais, Momo, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, je dis, t'es pas un peu con de ne pas te faire raser ? Tu sais que c'est un problème d'hygiène. Hein, si tu ne te fais pas raser, ils ne vont jamais t'opérer. Hein. Alors, t'as intérêt. J'entends qu'il dit à l'infirmière, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Enfin, il fallait que ce soit moi qui lui dise de se faire raser par mesure d'hygiène. Oh, c'était un phénomène, ce gars. C'était, franchement, je n'ai jamais connu un copain aussi, comment je peux dire, aussi différent de cette... je sais pas, c'est difficile à dire. Hein. Enfin bon, je n'ai jamais connu un gars comme ça, quoi. Bah. Après, il y avait le deuxième, Alain Bernard, mais ça, c'était autre chose. Hein. Bah, je ne sais pas pourquoi j'étais le copain qui aidait les autres. Voilà, je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Parce que j'en ai aidé, mais des gars qui n'étaient pas connus. Hein. Là, bon, c'est différent. Je les connaissais bien, hein, c'était vraiment des copains. Hein. Bon, pour la peine, on va aller passer Françoise Hardy. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous chanter, elle ? Le temps.
Les lois de la nature, le goût de l'amateur, aller droit dans le mur en écoutant son cœur, la fin de l'aventure et la déconfiture, ça fait partie du jeu. Changer la règle si jeune.
L'addiction souveraine, le diable.
eh bien voilà. Alors, vous savez qu'elle a 80 ans maintenant, hein, c'est incroyable. Alors là, j'ai mon dernier tome de Fleurs de Femme, le numéro 4, et j'ai un poème que j'ai écrit le 23 septembre 2012. Ça s'appelle Liberté d'écrire. Ben ça, je l'ai, moi, cette liberté. Hein. Là, vous avez dû vous en rendre compte. Hein. J'ai même cette liberté de lire d'autres poètes. Parce que je ne suis pas tout seul sur Terre. Hein. Alors, entre ceux qui sont morts et ceux qui sont encore vivants, en plus moi, on est compte, ça fait un paquet de poètes. Hein. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on n'ait pas, je ne sais pas moi, une place au Panthéon. Par exemple, les poètes réunis, vous voyez hein. Pourquoi pas. Bon, on n'est pas obligé de mettre un cercueil, juste une plaque. Hein. Ah oui. Ah, j'avais avalé un millefeuille vierge, de l'encre bleue et la plume d'un porte-char. J'avais le choix entre la calligraphie libertine ou cette prose tellement libre que parfois elle coulait le long de tes sentiments. Non, pardon, de tes intentions, c'est pareil. Je compris qu'il nous fallait aller voir un tatoueur afin que tu puisses posséder ces deux possibilités. L'homme à l'encre débile te proposa un cheval zélé en plein combat avec lui-même à cause de son esprit très terre-à-terre. Du coup, abandonnant le projet de te faire marquer pour la vie, tu préféreras une psychologue femelle qui te trouva à son goût. Tu me quittas pour vivre avec elle, sans savoir si elle aimait les moules frites chères aux paysans de la région. Moi, pendant cette période désertique, j'avais pris l'habitude d'écrire tous les matins, avant le chant du coq, le coq de l'église, bien sûr, des réformés juste à côté. Puis, après avoir épuisé toutes les gâteries inimaginables par ta psy, tu as compris que le loup que j'étais pouvait te mordre sans te manger l'essentiel. Depuis, tu me tricotes des cravates en laine vierge au point de croire que je vais les porter quand nous ferons l'amour. Voilà. Vous vous rendez compte? Alors depuis, je les mets, hein. Mais elles s'abîment à force. Elles s'abîment, puis elles sont pleines de taches, de sueur. Bah oui, hein. Bon, ça fait pas beau. Je trouve que c'est pas très beau. Bon. Je vais être obligé de les retirer. Allez, je vais vous lire un autre poème. Alors celui-ci, il a été écrit en 11 octobre 2014. Et alors ce fut triste parce que le 11 octobre 2014, mon épouse était déjà décédée. Mais je remonte à juillet 1963. Vous pouvez calculer combien de temps ça fait. Il s'appelle Ravenne. Ravenne, c'est sur la côte Adriatique, c'est où j'ai connu ma femme, en 1963. Mon plus beau souvenir venait de se faire agresser par d'autres pourtant aussi beaux. Se croyait-il abandonné ou si vite oublié? Pourquoi? Puisque seuls les plus beaux restaient fidèles dans ma mémoire. Ghislaine avait réussi à m'offrir des instants magiques pendant cette moitié de siècle. Elle aurait certainement continué si cette maladie ne l'avait pas rendue incapable de continuer cette belle aventure. Le plus beau était le premier, même s'il n'était pas sûr de donner place aux autres. C'était l'été 63 à Ravenne, sur cette belle côte adriatique, là où le ciel invite les anges pour prendre part au bonheur des rencontres. Une silhouette, un port de tête. Un bikini effronté, une belle toison ébène, tombant sur des épaules hâlées. Je ne voyais qu'elle parmi cette foule anonyme où les femmes rivalisaient en beauté, sans attirer pour cela mon regard. Voilà. Donc ça, c'est l'instant sublime de juillet 1963. Hein. Ben oui. Et vous voyez, on peut encore écrire bien après, je ne vais pas dire des siècles et des siècles après, mais des décennies et des décennies après. Hein. Parce que là, ça fait plus de 40 ans, au final. Alors, tiens, je vais vous lire mon 1000e poème, qui fut écrit le 16 avril 2003. Et j'ai commencé à écrire en novembre de 1999. Voilà, ça veut dire qu'en l'espace de même pas 4 ans, j'ai fait 1000 poèmes. Oh, j'étais fou à cette époque-là, j'écrivais n'importe quoi. Hein. Bon. Alors, ça s'appelle « Les dieux jumeaux ». La montagne charriait une rivière de galets qui avait perdu ses larmes de vie en descendant trop vite vers cette chaude vallée assoiffée. L'homme au bord de la prière se posait sur un tapis de fleurs vertes en tournant le dos au bitume surchauffé par un flux de moteurs incroyables. Malgré l'approche d'un vendredi saint, il roulait à vive allure sur l'autodérision pour aller honorer un lundi de Pâques déserté par les praticiens, excusez-moi. Les religions se croisaient dans cette migration sans s'apercevoir qu'elles se ressemblaient. Les catholiques et les musulmans priaient pour des dieux devenus jumeaux, alors que l'intégrisme se séparait brutalement des humains. Alors, l'histoire, en fait, c'est qu'on était à Larache. Larache, c'est une ville au Maroc, un petit peu plus, je ne sais pas si ça a été un peu au-dessus de Marrakech ou un peu en dessous, je ne sais plus. Et je crois qu'on était sur une route, Et devant nous, il y a une voiture qui s'arrête. Le gars, il sort avec un tapis de prière, il se met sur le bord de la route et il fait sa prière. Voilà, c'est à partir de là que j'ai fait ce poème. C'était joli. C'est comme une fois, quand on prenait le bateau à Gésiras. Pareil, alors il y avait un salon où les gens pouvaient se mettre, les voitures étaient naturellement dans le garage sous le bateau. Et là, pareil, j'ai vu deux ou trois musulmans qui se foutaient entre les sièges et qui faisaient leur prière. Vous voyez, donc il n'y a pas besoin d'église, au final. Il n'y a pas besoin d'église. Remarquez, il y en a bien qui font leur prière les genoux par terre devant leur lit avant d'aller se coucher. Bon, pourquoi pas, après tout. Moi, je ne le fais pas, ça. Quand je me lève comme ça, c'est pour aller pisser. C'est ça, ma prière. Alors, on pourrait peut-être passer Charlie Couture. J'aime bien Charlie. Charlie Lee.
L'amour est solide comme la glace, mais au fond l'amour fond comme les petites marionnettes, ainsi fond. T'as éternellement soif de tomber sous le charme. Une passion qui décoiffe, t'aurais même bu mes larmes. L'amour est solide comme la glace, mais au fond l'amour fond comme les petites marionnettes, ainsi fond. Soif de vivre autre chose, en apothéose. Pourquoi pas la vie en rose, tout remettre en cause. Tu t'enfermais à la maison, à regarder passer les saisons. Quand le feu d'une illusion a fait fondre les glaçons.
Cher Charlie Couture. Alors là, j'ai un poème que j'ai écrit le 13 octobre 2020 à 3h44, figurez-vous. Ça s'appelle « La vie éphémère d'un casse-croûte ». Vous allez voir comme c'est beau, comme c'est bon. Mais la fin est triste, c'est triste. Au départ, il y avait des graines semées, sans en connaître la raison et sa destination. Puis avec les aléas d'une météo, la graine devint épi. Je passe sur l'itinéraire du petit blondinet pour aller directement chez la génitrice. Elle aime la pâte à pain. Elle met tout son amour pour mettre un petit bâtard au monde. Celui ne connaissant pas encore sa destinée, car devenir un bâtard, raciste de surcroît, et en fin de vie, n'est pas vraiment glorieux. Hein. Le voici enfin aligné avec ses frères de blé, dans le rayon bâtard. Il est impatient de connaître qui va l'adopter. Doucement, les gars, restez tranquilles dans le rang. Un peu plus loin, une grosse tourte lui fait de l'œil. Mais notre bâtard n'y prend pas garde. Bien trop pressé de coincer une tranche de porc badigeonnée à la matière grasse que l'on dit du beurre. Le voici, celui qui va l'adopter. Ah, jeune, beau, en toile bleue, saillant. Il est beau, se dit le bâtard. Il part avec lui sous son bras. Mais sans le béret, le petit parisien de jour. Hein, car c'était il y a fort longtemps que cela se passait comme ça. Il n'avait pas connu l'époque où les vieux édentés mangeaient des biscottes trempées dans du café au lait. Lui, bien membré de la bouche, avec toutes ses dents et même très blanches par-dessus le marché. Il sentait un peu sous les bras, mais on peut l'excuser, c'est un ouvrier qui part au boulot sans avoir pris sa douche. Nous voici arrivés à son boulot. Sa machine sent l'encre et le plomb. Il sort son nontron. Nontron, vous savez, ces fameux couteaux de nontron. Il me coupe sur ma longueur. Ça fait mal. Ben, comme c'était la première fois, mamie supporte mieux que la croûte. Une fois ouvert en deux, me voici face à face avec moi-même, presque à poil. Il me chatouille des deux côtés avec de mon anatomie avec du beurre. Je regarde si je suis bien couvert de cette belle robe jaune, mais mon plaisir s'arrête là. Quand je le vois ouvrir une boîte ronde, pouah, ça pue. C'est inscrit sur le couvert, Camembert de Normandie. Ça se mange, ça. Et là, du coup, je regrette d'avoir été adopté par ce jeune imprimeur. Le voilà qui étale cette matière puante sur ma partie beurrée. Qui réagit en se bouchant le nez, je blague. Du beurre avec un nez, ça n'existe pas. Il referme la boîte après avoir subi le même sort à mon autre moitié qui sursaute au contact de ma moitié, venant se coller contre moi. Nous voici enfin réunis. Même le même destin de bâtard, mais avec une couche infecte entre nous. Et le voici nous prenant avec ses mains, en me portant à sa bouche. Il sent son haleine fraîche pour le moment. Mais du coup, moi aussi je pue le camembert. Je sens que mon existence va se terminer dans quelques minutes. Me voici déjà à la moitié de ma vie, de pain éphémère. Ma moitié déjà à l'intérieur, à chaud et suffoque. C'est même insoutenable. Pourquoi ce monsieur n'a pas choisi une bonne tranche de jambon de chez ma grange ? Hein ? C'est bientôt la fin. Mes morceaux tombent au fond de son estomac. Et j'arrête là mon récit, car je ne suis plus présentable et mon prestige de bâtard en prend un sacré coup. Le comble ! Ce con, il boit du Coca-Cola avec le camembert ! Quel c'est un vrai good shot. Il vient d'où, ce mec? C'est pourtant une belle boulangère qui m'avait mis au monde. J'aurais préféré que ce soit elle qui me mange, avec une bonne confiture à la fraise des bois. Eh oui, Nontron, marque d'une gamme de couteaux, fabriquée à Nontron, ville au nord de la Dordogne. Voilà. Faut le faire, hein. À faire parler un bâtard. Et pas n'importe quel bâtard. Hein. Ben, il nous reste quand même... Ah ben, il nous reste encore 6 minutes. Mamie, je te préviens, je veux pas que tu me fasses un casse-croûte au camembert. Hein. Bon, j'aime bien le camembert, mais bon, faut pas les prendre trop avancés, toi. Parce que ceux qui s'avancent tout seuls sur la table, il faut pas les prendre, hein, surtout. Hein. Bon, alors, ouais, on va passer, tiens, allez, on va passer Peter Gabriel dans Thèse Hop. We'll be right back. Alors, vous voyez, belle musique pour méditer. Mais je ne vous demande pas de méditer un livre. Hein. Je le fais tout seul, ça, vous inquiétez pas. Hein. Alors, je reprends mon premier tome de balade poétique à bord d'un Prévert. Et je garde sous le coude le deuxième tome en exemplaire unique. Inventaire étalé au soleil dans un Prévert. Ce fut écrit un dimanche 31 mars 2014, juste avant d'aller voter pour un deuxième tour de con, c'est-à-dire à 10h31. Oui, c'est précis, là. Hein. Vous savez pourquoi est-ce que... Alors, je n'ai pas écrit à cause des élections, hein, parce que vous n'allez pas ressentir les élections dans ce poème. Alors, machine à laver les aisselles, chien de fusil ayant des tics, père éphémère et mère ménopausée. Votez mon mot, sinon rien. Souris nageant dans un bénitier, carnet de santé en mauvais état, poste de radio à faune et à vapeur, paix entrant dans le trou de l'ozone, aspirateur pour de la poussière d'étoiles, acné numérique pour ados branchés. Cubi, quaternaire du divin de table. Calvaire d'un rosé resté enfermé. Ménopause retardée par un curé défroqué. Pléonasme, ménopausée, bien trop tôt. Valseuse de manuel à trois quarts-temps espagnol. Bah, vous savez, cette histoire de fameux manuel qui voulait s'était présenté en Espagne, un ancien premier ministre, je crois. Bah, Manuel Valls, c'est pour ça qu'il dit valseuse. Rêve n'aidant pas les chèvres à brouter. Un égo faisant de l'ombre au soleil. Un ouvrier P2 disqualifié, un « je vous ai compris, t'es bien comprise », un vol au-dessus d'un lit de couscous, un « oui mais » à dos de chamalière, ça je ne vais pas vous faire un dessin, ceux qui ont connu Giscard d'Estaing, hein. Des paroles de 289 pages de long, allongées de toute leur longueur dans un Prévert, voilà. Et puis là-dessus, je vous dis à bientôt, et mamie, j'arrive.